Merci beaucoup, Jean-Marie. Voilà, la réponse à la question posée par le titre « Peut-on échapper au concept hobbesien de représentation en démocratie ?» elle sera bien évidemment négative. Je procéderai en quatre temps, assez rapide. Je rappellerai d'abord à grands traits les éléments essentiels du montage hobbesien, la représentation du dispositif représentatif. Je ne peux pas le détailler dans tous ces détails, il ne s'agit pas d'un commentaire du Léviathan, évidemment. Donc, ensuite, j'expliquerai pourquoi, selon Hobbes, tout État, et même la République populaire, même la démocratie, repose nécessairement sur un dispositif représentatif. Et pour ce motif très simple, c'est que la représentation est la condition de toute institution en général et évidemment, notamment, de toute institution politique. Dans le troisième point, je montrerai que ce concept hobbesien de la représentation qui n'épuise pas, ce qu'on peut envisager par représentation et qui n'a aucun caractère en lui-même démocratique, ce concept que j'appellerais formel institutionnel, c'est peut-être pas une très bonne expression, mais si cette idée de la représentation est la condition nécessaire de la représentation démocratique, elle n'en est évidemment pas la condition suffisante et qu'il faut qu'elle soit complétée par un concept que j'appellerais par opposition substantielle politique, dont j'essaierai d'esquisser les contours, une esquisse hein, très rapide. Ça, on verra qu'on a, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Et enfin, je conclurai par un quatrième point, en soutenant la thèse selon laquelle, et ça c'est pour ça en cela que ce sera une conversation avec Cécile Guérin-Barg, que ce qu'on nous présente comme des alternatives à la démocratie représentative, que l'on parle de démocratie directe, de démocratie délibérative ou de démocratie participative, ne sont que des formes inavouées de la démocratie représentative. Voilà le programme. Premier point, donc, le dispositif hobbesien de la représentation. Je ferai, pour cet exposé, exactement ce que j'interdis à mes étudiants de faire. C'est-à-dire, on ira pratiquement directement au chapitre 16 du Léviathan. C'est dans Léviathan que tout se joue. Je ne vais pas faire le détail. Et moi, je leur dis, non, vous n'allez pas directement au chapitre 16. Et en général, même, ils risquent de rater le chapitre 16, qui est quand même assez décisif, c'est sur la représentation, et d'aller directement là, parce qu'au titre 2, la deuxième partie, c'est l'État ou la République of the Commonwealth. Et là, je dis, bon, là, je vais aller à la philosophie politique de Hobbes, je ne vais quand même pas aller m'enquiquiner. C'est un mot, c'est comme naïf dans ta bouche, c'est un euphémisme. En lisant un truc sur l'homme. Hein, c'est la première partie. Bon. Non, tout ce qui précède le Commonwealth prépare, évidemment, le montage de l'État hobbesien. Depuis le premier chapitre sur la sensation. Je veux dire, on peut pas, faut pas faire l'économie. Et j'insiste surtout sur le fait qu'il faut, si on veut comprendre ce qui se passe dans le chapitre 16, sur la représentation, la personnification, il faut une lecture attentive du chapitre 2, de l'imagination. Parce que dans de l'imagination, c'est là qu'on trouve la définition hobbesienne de la fiction. Donc, c'est-à-dire de ce qu'il appelle l'imagination composée, j'y reviendrai. Et la même chose vaut aussi, c'est pas les seuls, hein, mais du chapitre 10, surtout ne passez pas cela, sur la puissance, et dans lequel Hobbes montre comment, dans le commerce, les échanges humains, dans la communication, ce qui ne veut pas dire encore l'institution, la société, non, la communication entre les hommes, la vraie puissance est réputation de puissance. Réputation de puissance. Et quel est l'effet, cette réputation de puissance, qui est la puissance entre nous, de chacun, des évaluations imaginatives que nous faisons respectivement de la puissance d'autrui et que, et là je cite, Hobbes, la valeur d'un humain, vous allez tout de suite voir qu'on n'est pas chez Kant, hein, la valeur d'un humain, pour ceux qui ont le malheur de suivre un certain commentaire des fondements de la métaphysique des mœurs, où son mérite est comme celle de toutes les autres choses, à savoir son prix. Donc l'humain a un prix, voilà. Hop. Donc c'est pas beaucoup conscient, mais on s'en fiche. C'est-à-dire le prix qu'on serait prêt à payer pour utiliser sa puissance, c'est-à-dire la puissance qu'on lui impute. Et, dit Hobbes, et ici comme ailleurs, c'est l'acheteur qui fixe le prix. Et enfin, je veux rappeler que ce chapitre 16 qui va nous occuper, dont le titre est « Des personnes, auteurs et choses personnifiées », il y a des choses, personnes, c'est pas un problème, on peut personnifier un pont, etc. On connaît ça aussi. Ça conclut la première partie, donc sur l'homme. Et qu'il fait donc charnière avec le montage de l'état hobbesien. Mais qu'il n'est pas encore dans la, disons, pour faire bref, la théorie politique de Hobbes. Donc la théorie de la personnification et de la représentation qu'on a dans le chapitre 16, c'est une théorie générale. Et d'ailleurs, il prend des exemples, notamment du mandat privé, etc. C'est pas une théorie de la représentation politique. Bon, une fois dit cela, citons les deux premiers paragraphes célèbres du chapitre 16. Une personne est celui dont les mots et les actions sont considérés, alors, soit comme étant les siens propres, soit en ce qu'ils représentent les mots et les actions d'un autre, ou de toute autre chose. Je peux attribuer des paroles à des choses, voilà. Vous voyez, il faut imaginer, là, hein. Donc, soit en ce qu'ils représentent les mots et les actions d'un autre ou de toute autre chose, à quoi ils sont attribués véritablement ou fictivement. Quand ils sont, deuxième paragraphe, quand ils sont considérés, ces mots et ces actions, comme les siens propres, on dit alors qu'il s'agit d'une personne naturelle. Quand ils sont considérés comme représentant, representing en anglais, les mots et les actions d'un autre, alors il s'agit alors d'une personne fictive. Feigned en anglais, je ne prononce pas bien, mais c'est pas grave, ou artificiel. Ce qui est important, c'est de noter le verbe considérer, qui intervient au début des deux paragraphes. Il est décisif. Toute personne est sur une scène, elle est mise en scène, ce qui est parfaitement cohérent avec l'étymologie que tout le monde connaît de persona, et que rappelle Hobbes, hein, et qui vient per à travers, sonare, sonner, ça sonne à travers, c'est le masque de l'acteur de la représentation antique. Mais c'est le spectateur qui considère. Attention, c'est pas l'acteur, c'est le spectateur qui considère. Et on peut anticiper ici en disant que par le contrat d'institution de l'État, celui et ceux qui vont s'assujettir à l'État s'obligent à considérer, à se représenter certains mots, actions, certaines actions du représentant, qu'on appellera le souverain, d'une certaine manière. C'est ça le sens profond du contrat. Alors, je n'ai pas encore dit de quelle manière. Hobbes précise, ouais, une personne n'est rien d'autre, c'est la même chose qu'un acteur. Personnifier, c'est tenir un rôle ou représenter soi-même ou un autre. Voilà. La personne, c'est celui dont les mots et actions sont considérés de telle ou telle manière, selon ces trois possibilités, par ceux qui le regardent, ceux qui les considèrent, les spectateurs, les appelleront. Je remarque que même la personne dite naturelle, elle est ici dite se représenter elle-même. Elle n'est pas si naturelle que ça. Elle n'est pas si naturelle que ça. Elle n'est pas, dans la communication humaine, on n'est jamais un simple naturel soi-même. Voilà. On est soi-même personnifié en autrui et par autrui, et donc toujours nécessairement en représentation de soi. Pourquoi ? Parce que dans l'échange avec autrui dont j'ai parlé, la communication, mes mots et mes paroles sont toujours pour autrui des signes. Voilà. Et là, évidemment, on reconnaît le nominalisme. Et la grande théorie des signes que l'on trouve au chapitre, si je me souviens bien, 3 et 4, 4, oui, 3 et 4 du Léviathan. Un signe, c'est soit l'antécédent d'un conséquent, soit le conséquent d'un antécédent. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. La fumée est le conséquent du feu. Pas de fumée sans feu. D'accord ? Le feu rouge est l'antécédent d'un conséquent qui sera que la voiture s'arrête. Et comme je le rappelle toujours à mes étudiants, parce que j'ai soin de leur sécurité, ce principe ne vaut pas pour les vélos. Mais voyez, ok. Et puis vous avez parfois des cyclistes qui prennent leur voiture et parfois des cyclistes aussi qui sont des conducteurs habituels et qui s'arrêtent. Ça, c'est très rare, mais 0,2%. Ce qui veut dire que cette petite blague, c'est pour dire que c'est jamais certain. Parce que ce rapport entre le conséquent et l'antécédent n'est pas un rapport de causalité, c'est pas de la cause. Si c'était un rapport de causalité, on pourrait le calculer. Tout irait bien, dans le meilleur des mondes possibles. Hein. On serait tranquille, mais un peu passif. C'est pourquoi mes signes, pour autant que moi-même je puisse en détenir la vérité, ce qui n'est pas sûr, mais je peux savoir, même si je mens, ce n'est pas parce que je mens, que moi je ne sais pas la vérité de mon mensonge. Hein? Donc le mensonge n'est pas l'antonyme de la vérité. Mais ces signes ne produisent aucune certitude pour autrui. Ni même pour moi. C'est bien pourquoi l'opération contractuelle du chapitre 17, le célèbre contrat social ou politique, oblige, comme je l'ai dit, le spectateur citoyen à croire, sinon à l'authenticité, à la vérité, à quoi que ce soit de ce genre. On ne doit pas attendre du souverain qu'il soit un parésiaste. C'est-à-dire, la parésia, c'est le. Voilà, je renvoie au cours de Michel Foucault sur le courage de la vérité. C'est celui qui prend le risque de la vérité. Donc, je n'ai pas besoin. On ne me demande pas de croire à la vérité de la parole du souverain, mais à la validité des signes du souverain. Voilà. Toujours est-il que notre existence avec autrui est essentiellement expérience de signes, d'échange de signes. Même si on n'est pas d'accord sur les significations, je veux dire, pour Hobbes, l'arbitraire du signe, ça y est, ça existe. Cette expérience est celle qui nourrit notre prudence. Une prudence qui, du fait de ce principe général d'incertitude, qui vaut dans le commerce humain ordinaire, sinon, alors, mais qui ne doit pas valoir dans notre rapport à une institution. Institutionnaliser, c'est trouver le dispositif de réduction aussi drastique que possible de cette incertitude, ce qui permet aux humains d'anticiper. C'est un mot très important chez Hobbes, l'anticipation. Et donc de commencer à computer le temps. Voilà. Parce que l'état de nature, ce n'est pas un truc où tout le monde est méchant. Hein. C'est juste comme on ne peut rien anticiper. Il vaut peut-être mieux taper sur la figure du voisin, mais rassure-toi, je sais. Que d'attendre qu'il le fasse lui-même. Et que je n'en sais rien. Tu peux anticiper aussi, bon, c'est bien. Donc, voilà. Voilà, c'est l'état dans lequel je ne peux rien anticiper. Toutefois, quand je reprends ces trois paragraphes, il faut que je me dépêche un peu là, on a l'impression d'une certaine discrépance entre les deux. Dans le premier, il y a trois modes de représentation par la personne. On lui impute les mots et les actions en tant que les siens propres. On lui impute les mots et les actions en tant que ceux d'un autre, mais par une attribution vraie. On lui impute les mots et les actions en tant que ceux d'un autre, mais par une attribution fictive. Dans le second paragraphe, il semble qu'il n'y ait plus que deux modes de la personne, la naturelle, la fictive ou l'artificielle. Donc la personne, alors il apparaît que personne fictive, désignant les cas où les mots et les actions sont considérés, je le rappelle, comme représentant les mots et les actions d'un autre, s'applique aux modes 2 et 3, c'est-à-dire peu importe, enfin, la personne fictive se dira de la personne à qui on attribue les mots et les actions par une attribution, à un autre, mais par une attribution vraie, aussi bien que par une attribution fictive. Ce qui signifie que la fiction Hobbesienne, elle joue sur deux registres. Elle qualifie la personne, elle qualifie l'imputation des mots et des paroles. Elle peut être elle aussi fictive. Et ça ne va pas vous étonner que l'État va jouer, va présuppose ce redoublement fictionnel. Il faut attribuer. On va considérer que le souverain prononce les paroles d'un autre, et cette attribution est fictive. Donc il y a deux fictionnalisations possibles. J'en viens maintenant à mon deuxième point sur la représentation condition de l'institution. Voilà, la thèse que je veux défendre, c'est que voilà, ce que pense là Hobbes, c'est l'institution. Et vous comprenez bien que quand nous, les juristes, on dit qu'est-ce que c'est qu'une institution, c'est un truc qui s'inscrit dans la durée. Hein? Et d'après ce que je viens de dire, l'état de nature, c'est précisément le contraire. Donc, instituer, c'est fondamental. Au chapitre 2 de l'imagination, j'y reviens, Hobbes a défini le mot fiction. L'imagination est définie comme une sensation dégradée. La sensation est définie au chapitre précédent, au premier, comme l'effet de l'action, de la pression, dit Hobbes, et donc d'une force. Parce que Hobbes, bon, c'est de la mécanique, hein. Il n'y a que des corps, il n'existe que des corps, Dieu même est un corps. Donc, n'allez pas. Le sujet hobbesien, ce n'est pas le sujet métaphysique, ce n'est pas le sujet cartésien, c'est pas. Hein. Attention! Alors, après ça, quand on parle du droit subjectif chez Hobbes, moi j'ai dit oui, mais c'est le droit subjectif de quel sujet, hein? Faisons attention. Bon, peu importe, j'y reviens. C'est l'effet de l'action, de la pression exercée par un objet sur les organes de nos sens. La sensation, dit Hobbes, c'est un sensualiste, est à l'origine de toutes nos pensées. Donc il n'y a pas la substance pensante, etc. Lorsque l'objet disparu et n'exerce plus de pression sur nos sens, il reste une impression qui continue en s'affaiblissant, comme dit Hobbes, comme si quand on lâche un caillou dans la mare, les ondulations diminuent, plus elles s'éloignent. Et nous conservons une image de l'objet, une mémoire, une illusion, fancy. Imagination et mémoire ne sont qu'une seule et même chose, dit Hobbes. Imagination et mémoire ne sont qu'une seule et même chose. Notre mémoire est toujours une imagination. Là, c'est tous les trucs. Ne l'oublions pas quand on parle de la mémoire et des mémoires, etc. On imagine. C'est ça, là, on l'oublie. Hein, aujourd'hui. Bon. Mais jusqu'ici, j'ai parlé que de l'imagination simple, comme dit Hobbes. Mais sous l'effet d'une impulsion quelconque, on peut être amené à mixer nos images. J'ai l'image d'un cheval, j'ai l'image d'un homme. Je peux composer ces deux images pour faire le centaure, qui est une fiction, qu'on appellera fiction, mais qui est un composé de deux imaginations simples. Ça nous permet, dit Hobbes, d'écrire de grands romans. Hobbes, c'est un humoriste anglais. Hein, Il adore les jeux de mots. Il le dit même dans, sur la parole. Ça permet de faire de jolis jeux de mots, etc. Donc, il adore ça. Swear, words without swear are but words. Voilà les jeux de mots. Dans cette imagination, c'est la fiction de l'esprit, dit Hobbes. Lorsque nous imputons les mots réellement prononcés ou les actions réellement effectuées par l'un à un autre, nous composons, je crois que c'est assez clair, par imagination. On dit, ah ben c'est bon, c'est, hein, c'est Gérard Depardieu qui joue le cygne, mais en fait, je l'attribue, je dois l'attribuer à quelqu'un d'autre, à Cyrano ou à Edmond Rostand. Il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Hein. Ou alors vous pouvez vous dire, non, c'est vraiment Depardieu qui joue, qui a inventé le texte qu'il est en train de jouer. Bon, c'est pas grave. Donc on appelle personne fictive celui-là qui parle ou agit, l'acteur, tandis que nous imputons ses paroles et ses actions à un autre qu'on appellera l'auteur. Or, c'est bien nous, dans l'état naturel du moins, qui considérons l'acteur et nous, c'est nous les maîtres de la fiction. Dans l'état naturel, nous sommes les maîtres de la fiction. J'ai envie de dire, c'est un peu exagéré, les souverains de la fiction, dans l'état naturel. Donc l'institution s'est supprimée, c'est nous supprimer en tant que maîtres de la fiction, nous obliger à une fiction déterminée. Et pour instituer, cela suppose l'unification de nos volontés et de nos considérations. D'où la nécessité que la fiction politique de l'État soit établie par une multitude de contrats entre tous et tous, ce qui est la condition pour que tous deviennent un « nous ». D'où aussi la nécessité que celui qui portera notre personne, c'est très important, notre représentant, soit extérieur à ce « nous ». Ça ne peut pas marcher s'il est dedans, parce qu'il ne peut pas, lui, se considérer. Il ne peut pas s'obliger à se considérer. Non, il est extérieur. Car à défaut, nous ne pourrions pas non plus le reconnaître comme un acteur face à nous. Il serait parmi nous. Alors là, c'est la fête à la Jean-Jacques, ou je ne sais pas. Hein, pour comprendre Jean-Jacques et Hobbes, Jean-Jacques c'est la fête, campagnarde, hein, j'entends. Et Hobbes c'est le théâtre, que déteste Jean-Jacques, comme chacun sait. Donc, il ne peut être qu'artificiel et fictionnel, il ne saurait être parmi nous, il doit être l'objet de notre imagination composée, partagée, unifiée. Et donc, il n'est pas parti au contrat. C'est, ça, on le sait en général. Et cette forme du contrat hobbesien, pour moi, elle correspond parfaitement à ce que nous, juristes français, nous connaissons comme stipulation pour autrui. C'est une stipulation pour autrui. Les parties au contrat, c'est nous qui instituons en commun, un tiers bénéficiaire. Et qui donc n'est pas parti à ce contrat. Je rappelle que notre contrat ne peut pas lui imposer d'obligation. Je suis désolé, le souverain n'a aucune obligation envers les sujets, aucune obligation née de ce contrat. C'est pas possible. Et là, certains débats autour du droit de résistance, etc. Mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je ferai des déçus. Oui, c'est l'effet relatif du contrat. Comme on dit, nous autres juristes, je pense que parfois les philosophes, je les aime beaucoup, ils devraient avoir un peu de droit pour penser des choses. Parce que Hobbes, il pense en juriste. Hein, c'est... Bien sûr, il s'agit de savoir quel bénéfice nous devons concéder au souverain, hein, le tiers bénéficiaire. Or, puisque l'institution de l'État a pour but de nous transporter de l'état de nature à l'état civil, c'est clair que ce que nous allons apporter, c'est notre droit naturel. Et nous allons l'apporter en l'abandonnant, complètement, intégralement, sans réserve. J'ajoute comme chez Rousseau, mais ça se perd. Nous allons lui abandonner notre droit. Nous l'abandonnons au profit d'un tiers bénéficiaire. C'est donc que cet abandon est ce que Hobbes a appelé précédemment, au chapitre 14 ou 15, je ne sais plus, un abandon transfert. Ce n'est pas une renonciation pure et simple, mais un abandon transfert, c'est un abandon au profit d'un tiers. Notre droit naturel, chacun le sait, c'est faire selon son jugement et sa raison propre, et donc ma manière de considérer aussi, derrière, tout ce que il, l'individu, concevra être le meilleur moyen pour la préservation de sa vie et de déterminer ce qu'il en est du bien pour lui. Pour lui. Voilà. Donc, l'institution de l'État, c'est un processus de désappropriation. Toute cette construction jusque-là, que j'ai exposée jusque-là, se trouve déjà dans le déquiwé, donc on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il a pris 10 ans, pratiquement, pour remettre le truc sur l'ouvrage, et puis écrire le Léviathan. Mais ce dispositif qui est déjà dans le déquiwé, il n'est pas remis en cause dans le Léviathan. Simplement, il a besoin d'un complément afin de réaliser ce que Hobbes appelle, avant qu'il expose le négocium du contrat, à une unité réelle. Elle vous signale que cette unité réelle, elle repose sur une fiction ou deux fictions redoublées. Ça, c'est le génie de Hobbes. Mais maintenant, on peut... Car le problème politique fondamental est là. Après ça, on peut... Enfin, je pense que c'est un problème qui était très, très actuel, évidemment. Mais il n'est pas seulement actuel, il est fondamental. Chez Hobbes, eh bien, de comprendre et découvrir la rationalité politique qui peut seulement permettre de passer d'une multitude d'individus à la nécessaire unité politique. Qu'est-ce qui fait l'unité de l'État ? Arrêter là où nous l'avons laissé, ou là où Hobbes l'a laissé dans le déquiwé, cet abandon transfert à un souverain au profit de ce tiers bénéficiaire de notre droit de nature est insusceptible de former la communauté politique. C'est ça le problème fondamental. C'est-à-dire l'être en commun des co-contractants dans l'institution. Nous ne mettons en commun qu'un abandon de droit que nous transférons, mais qui par lui-même ne nous oblige pas à considérer de surcroît quoi que ce soit qui puisse être un bien commun. J'abandonne, je transfère, je me désapproprie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est en commun? Et maintenant, on comprend la formule contractuelle. Et on comprend pourquoi la représentation intervient et l'ajout fondamental, chacun le sait, du Léviathan par rapport au déquiwé. J'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit, je lui abandonne, c'est donc un abandon de transfert, de me gouverner moi-même, c'est-à-dire de juger par mon jugement et ma raison propre, de mon propre droit, à cette condition que tu lui abandonnes, et là il y a réciprocité, ton droit et que tu autorises toutes ces actions de la même manière. C'est l'autorisation qui est le nouveau concept. C'est le concept, bon ça c'est connu, hein, représentation, autorisation, qui boucle la réflexion politique de Hobbes sur les causes et la génération des États et qui n'était pas dans le déquiwé. Comme on l'a dit, le concept central du dispositif de la représentation, c'est cette autorisation. Mais remarquez bien ce qui se passe. L'auteur autorise l'acteur. Jeu de mots, l'auteur autorise. Il autorise l'acteur et qu'est-ce qu'il lui donne ? L'autorité. Alors là, je ne comprends pas pourquoi M. Gérard Méret a voulu traduire « authority », dans ce chapitre 16 en tout cas, par « pouvoir ». Il n'a rien compris. Hobbes, c'est scandaleux. C'est un scandale. On peut faire des erreurs de traduction, mais ça, d'ailleurs, il n'a pas lu. Pardon ? C'est très naïf. L'auteur autorise. et confère l'autorité au souverain. Donc l'auteur, c'est qui? C'est ça le piège de la représentation chez Hobbes. C'est qui l'auteur? C'est nous qui autorisons. J'autorise à condition que tu autorises et tous ensemble, nous. Parce que c'est nous qui allons considérer que cette personne est notre personne. Mais ce faisant, nous nous sommes obligés. C'est ça la différence à ce qui se passe dans s'il n'y a pas l'institution. Nous nous sommes obligés à considérer la personne comme notre souverain. Ah, ça change. Et c'est le fondement de validité de l'État. Je veux juste ajouter un mot. Chez Hobbes, il ne peut y avoir qu'un seul moment contractuel. Il ne faut pas dire qu'il y a un contrat, puisqu'il y a une multitude de contrats. Mais qu'ils se passent tous en une et seule fois. Là, ça le distingue des théories de l'école classique du droit naturel. Chez Pufendorf, c'est plus tardif, c'est 10 ans après. Hein, où il y a deux contrats. Le contrat d'association, le contrat de suggestion. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que on sait que les contrats, les mots sans l'épée ne sont que des mots. Donc le contrat d'association, on dit on est tous gentils, on est tous contents, on va tous s'associer, hop, on fait une belle union. Ce contrat, il n'a aucune validité. Parce qu'il n'y a pas l'épée. Donc il faut que dans le même temps, dans le contrat haussien, se fasse et l'association et la suggestion. Ce qui garantit, le mot fondamental, c'est la garantie. Ce qui garantit la durabilité de ce contrat et donc l'institution. Nous sommes les auteurs par imputation fictive des paroles et des actions du souverain. Et nous devons nous considérer comme tels. Bon, oui, alors maintenant, on voit le piège. Puisque c'est moi qui parle, qu'est-ce que je peux proposer à moi-même? Non? Donc ça veut dire que rompre le contrat, c'est commettre ce que Hobbes appelle une injustice, qu'il distingue du dommage. Une injustice. Injury, je crois. Parce que, il dit, c'est comme l'absurdité en logique. Une absurdité, c'est je dis une chose et puis tout, hop, après ça, j'aboutis au contraire. Donc c'est une violation du principe de non-contradiction. Mais une injustice, c'est pareil. J'ai dit, dans un premier temps, j'ai dit, je m'oblige, et ensuite, je contredis ma propre parole. Donc c'est, dans l'ordre du droit, une injustice, c'est la même chose qu'une absurdité dans l'ordre logique. Je ne peux pas me contredire. C'est là, ça, c'est Hobbes le logicien. Voilà, à peu près ce que je voulais vous dire. Donc, je suis désolé, mais vous n'avez pas de recours contre l'État. Alors moi, je veux bien vous dire, ah oui, mais aujourd'hui, on a dépassé ça parce qu'on a le Conseil constitutionnel que tu admires tant, et puis même ailleurs, il y en a d'autres. Donc, on peut faire des recours contre l'État. Oui, mais c'est quoi le Conseil constitutionnel?
Je te laisse répondre à
une question. Eh bien, c'est encore l'État, que je sache. Donc, on sort pas du piège de la représentation par la justice constitutionnelle. Mais il y a plein de fantasmes qu'il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, déconstruire. J'adore ce mot déconstruire. Aujourd'hui, il n'est pas assez en vogue, je trouve. On pourrait le pousser un peu. Bon, donc je vais peut-être m'arrêter juste après avoir dit la chose suivante. Chez Hobbes nous dit clairement que tout État est représentatif. Même l'État représentatif n'est pas une forme d'État parmi d'autres. On n'est pas chez Bernard Manin ou des choses comme ça. On est chez Hobbes. La représentation, c'est la condition nécessaire de tout État, quel qu'il soit. Même là, ce qu'il appelle la République populaire, c'est-à-dire l'État dans lequel, hein, puisque vous savez que la souveraineté, l'autorité peut être conférée soit à un homme, soit à une assemblée, mais il ajoute, cette assemblée peut être composée de certains quelques-uns ou de tous. Donc, l'Assemblée composée de tous, c'est la démocratie directe, c'est la. Lui, il dit, bah, ouais, mais c'est encore de la représentation. C'est au chapitre 19, hein, je vous laisserai aller chercher. Le souverain est toujours représentatif, même quand c'est de la souveraineté populaire, comme on dit. Pourquoi ? C'est très simple. L'Assemblée de tous, mais on admet le principe de la majorité. Et Hobbes l'admet. Donc en fait, il y a un dispositif représentatif à l'intérieur même de l'Assemblée de tous, puisque la majorité est autorisée, doit être autorisée, à parler au nom et pour le compte, comme on dit, au nom de tous, et pas seulement de la majorité. Hein ? Un référendum, on ne dit pas c'est la majorité du peuple français qui a adopté la présente loi. Non, je ne crois pas. Bon. Donc, là, c'est, il faut de l'autorisation, il faut de l'autorité, il faut de la fiction. C'est une fiction. Zut. Ben non, mais... De dire, ah, c'est le peuple s'est prononcé. Ouais, mais t'es en plein dans la fiction, mec.
Non, mais c'est pas vrai.
Non, parce que t'as... Ouais, parce que je t'entends rire, comme si... Bon. OK. Ça veut pas dire que, évidemment, on peut pas... Enfin, cette représentation hobbesienne n'est pas une représentation démocratique. On est d'accord. Mais c'est un concept fondamental de toute institution de l'État. Voilà. On peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer, même par la démocratie directe. C'est pas possible. Simplement, Hobbes, si on lit correctement Hobbes, ça nous invite à ne pas nous illusionner comme on le fait dans les manuels de première année de droit constitutionnel. Je parle pour Bruno. C'est-à-dire, la démocratie directe, hein, la démocratie représentative, la semi-représentative, hein. Bon, non, elles sont toutes représentatives. Et Hobbes nous aide à... Parce que l'important, c'est... Politiquement, l'importance politique de ça, c'est pas s'illusionner, pas croire que la démocratie, c'est que tous veulent tous la même chose. Hein, c'est quoi la volonté du peuple ? Parce qu'on a parlé de la volonté du peuple tout à l'heure. Elle est où ? Comment puis-je la refléter ? Vous savez faire ça, vous ? Vous la connaissez ? Il y a des modes de connaissance. Non, il faut la produire. Et dès que vous devez la produire, alors vous introduisez de la représentation, c'est-à-dire de la séparation entre ceux qui peuvent dire la loi et ceux qui sont vaincus dans ce processus, quels que soient ceux qui participent à ce processus. Et il y a une phrase de Rousseau, on l'a rappelé tout à l'heure, qui est très juste, c'est la volonté, de toute façon, ça ne se représente pas. Donc, mais il faut un complément à ce concept de la représentation que j'ai appelé politique, je ne sais plus, substantielle politique, et qui veut dire que si la représentation veut être démocratique, il faut évidemment que ça circule, les idées, les opinions circulent entre l'État et la société civile. Je dis très simplement tout ça, sans entrer dans le détail. Simplement, la démocratie représentative, ça ne peut pas être que il y a des assemblées représentatives dans l'État. Hein ? Bon, c'est pas ça. Ces assemblées représentatives n'auraient aucun sens si leur débat, leur délibération, parce qu'on a parlé de démocratie délibérative, mais enfin, à l'origine... La théorie du gouvernement représentatif, alors cette fois au sens de Bernard Renan, c'est une grande théorie de la délibération. Ce qui s'est passé, c'est davantage le problème des partis politiques que le problème des institutions elles-mêmes. Mais bon, peu importe. Et je vais conclure. Voilà, donc j'ai un peu, excusez-moi, c'est un peu brouillon, mais c'est parce que je vois le temps passer. Je vais conclure en disant que. En reprenant un peu le thème de ce matin qu'avait évoqué Cécile et qu'on avait évoqué sur démocratie participative, démocratie délibérative, pour moi, je ne vois pas en quoi la démocratie participative, pour moi, c'est pas un pouvoir de décision. Ça, c'est, on peut pas faire ça, ça marche pas comme ça. Si c'est un pouvoir de décision, c'est une procédure référendaire. Si c'est tous peuvent participer ou tous sont admis à participer s'ils le souhaitent à la décision, c'est une votation populaire. Non, la participation, c'est des forums sur lesquels les citoyens librement, à la différence de la démocratie délibérative, peuvent venir exposer, prendre position, exposer une opinion, porter une opinion, et ce qui est favorisé par le développement des techniques nouvelles, enfin elles sont plus si nouvelles que ça, de l'information et de la communication. Bon, maintenant comment on collecte ces milliers ou milliers, voire millions de messages des citoyens, et comment on les analyse, et qu'est-ce qu'on en fait, ça c'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Mais pourquoi ça serait si différent de la représentation telle qu'on l'a pensée au XIXe siècle? Parce qu'il y a des techniques nouvelles qui permettent aux citoyens de s'exprimer d'autres manières. Mais la revendication, un principe fondamental de la représentation au XIXe siècle, c'est la liberté d'imprimer. La liberté d'imprimer, parce que c'était l'imprimerie. Et aujourd'hui, ben, la liberté, eh bien, de tweeter, grâce à Elon Musk, elle sera parfaite. Donc, je ne vois pas le caractère de corps étranger. Pour moi, la représentation ne détermine pas... la représentation ne détermine pas quels doivent être les forums de la délibération ou de la liberté d'expression. Donc, on peut... Je n'ai rien contre... A priori, j'ai rien contre la participation, la démocratie délibérative, ce qui suppose alors là une organisation très formelle et très stricte d'un débat dans un petit groupe, comme tu l'as rappelé. Moi, je vois, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Même le RIC, on peut y réfléchir. Simplement, la seule chose que je veux dire, c'est ne continuons pas à nourrir ce mythe politique qui est aussi une idéologie de la vraie démocratie. Je vais revenir sur la vraie démocratie. C'est la volonté immédiate, comme si cette volonté pouvait être immédiate, du peuple, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors je voudrais dire quand même que gouvernement du peuple, ça ne peut pas s'interpréter comme gouvernement par le peuple, parce que sinon ça voudrait dire gouvernement par le peuple et pour le peuple. Ça n'a plus de sens. Ça veut dire que c'est quand même un gouvernement du peuple, c'est un génitif objectif. Le peuple est l'objet du gouvernement, et il est le sujet. C'est ça ce que ça veut dire. Et on peut espérer que c'est dans son intérêt pour le peuple. Alors, sa formule de Lincoln, elle n'est pas si stupide. Mais bon. Voilà. Merci beaucoup.